Et bonjour à tous. Une étude de l'INSERM a récemment montré que des Français avaient été en contact avec le virus de la Covid dès le mois de novembre 2019, soit bien avant le début de la pandémie. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
Vous avez pu retrouver certains de ces Français et on verra que leur témoignage relance le débat sur l'origine du virus. Et puis nous recevrons Régis Arnaud en duplex de Tokyo. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, nous reviendrons sur l'inculpation des deux Américains soupçonnés d'avoir organisé la fuite de Carlos Ghosn et nous verrons qu'une des filles de l'ancien patron de Renault est désormais dans le collimateur de la presse japonaise.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Laurent Chu est la première victime connue du Covid en Europe. Un virus contracté lors d'un déplacement professionnel en Chine, diagnostiqué le 23 janvier 2020 à Bordeaux.
J'ai passé quelques jours à Wuhan. J'avais des symptômes, notamment de la...
Voilà, c'est un extrait d'un reportage de France 2 sur l'homme qu'on a longtemps considéré comme le patient zéro de la Covid-19 en France. Un homme qui avait été testé positif fin janvier 2020. À l'époque, on pense donc que les tout premiers cas de Covid chez nous remontent à cette période-là. Mais de nouvelles études, depuis, ont tout remis en question, Laetitia Chérel.
Effectivement, il y a un an, on se rend compte que le premier patient infecté l'a été en fait fin décembre 2019. Il est alors hospitalisé à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, en Seine-Saint-Denis, pour une pneumopathie sévère. Plus tard, en avril 2020, Yves Cohen, le responsable du service de réanimation de l'hôpital, fait analyser une nouvelle fois un test qui avait été effectué à l'époque. Et ce test s'avère positif. Le professeur Cohen nous a expliqué comment il a procédé.
On a repris tous les écouvillons qu'on fait, parce que vous savez, quand un patient rentre pour une pneumonie, on fait un écouvillon à la recherche de la grippe en particulier ou d'autres virus. Et on a la chance de garder ces écouvillons congelés. Donc on a repris tous les écouvillons du 1er décembre 2019 au fin janvier 2020 et on les a retestés pour le Covid-19. Et on s'est aperçu sur les 24 prélèvements que l'on avait, un était positif au SARS-CoV-2. Et donc, on a recontacté le patient, on a revu l'histoire clinique, on a revu le scanner, et on s'est aperçu qu'il avait exactement les signes cliniques du Covid-19 et les signes radiologiques au scanner du Covid-19.
Ah oui, d'accord. Donc, à ce moment-là, le patient zéro n'est plus celui du 23 janvier 2020, hein, le fameux Laurent Chu. On en a maintenant un autre qui date, lui, de fin décembre 2019. On sait d'ailleurs comment il a été contaminé.
Alors non, hein. En fait, la seule chose que l'on sache, c'est qu'il n'avait pas voyagé à l'étranger. Mais selon le docteur Cohen, sa femme travaillait dans un supermarché près de l'aéroport de Roissy et c'est elle qui l'aurait contaminé.
Donc on se dit à ce moment-là qu'il est le tout premier Français contaminé. Sauf que très récemment, on a découvert que des personnes l'avaient été avant lui, encore plus tôt.
Oui, il y a un mois, deux chercheurs français de l'INSERM apportent la preuve que le virus circulait en France dès le mois de novembre.
Alors, il faut expliquer ce qui leur permet de dire ça.
Eh bien, au tout début de l'épidémie, ils ont eu la même idée que le professeur Cohen. Ils ont analysé rétrospectivement des échantillons de sang qui avaient été prélevés sur 9000 personnes entre novembre 2019 et mars 2020. 9000, c'est beaucoup, et ces gens font partie de ce qu'on appelle la cohorte constance.
La cohorte constance, alors c'est quoi la cohorte constance?
C'est un groupe de personnes qui sont suivies régulièrement. Il est composé de 200 000 volontaires. On recueille des informations sur leur santé pour la recherche, pour comprendre, par exemple, quels sont les facteurs qui augmentent les risques de maladie. Et pour cela, on leur fait faire des bilans régulièrement, comme l'explique Marie Zins, la directrice scientifique de la cohorte.
Depuis 2018, on leur propose de participer à la mise en place d'une biobanque. C'est-à-dire qu'ils acceptent que des échantillons de leur sang puissent être congelés dans des grandes cuves d'azote liquide pour répondre à des recherches ultérieures. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là, suite à des sollicitations du professeur Fabrice Cara, qui est un épidémiologiste des maladies infectieuses, on s'est dit qu'il serait vraisemblablement très intéressant de pouvoir retourner en arrière dans des échantillons qui ont été stockés depuis 2018 pour voir si on pouvait retrouver éventuellement des traces du virus, c'est-à-dire la présence d'anticorps.
Et donc, on en a trouvé ?
Eh bien oui, sur les milliers d'échantillons prélevés entre novembre 2019 et janvier 2020, une dizaine s'est révélée positive. C'est ce que nous explique Fabrice Carra, l'un des auteurs de cette étude, qui dirige l'Institut d'épidémiologie Pierre-Louis à Paris.
On a retrouvé très exactement 176 personnes positives entre novembre et janvier. Et sur ces 176, 13 ont été confirmées par un autre test qui permet d'éliminer pas tout risque d'erreur, parce qu'on ne peut jamais éliminer tout risque d'erreur, mais qui permet d'affirmer avec à peu près certitude que parmi l'ensemble de ces personnes, certaines avaient été sûrement contaminées. Donc voilà, en novembre, décembre, à peu près, on avait 2% de positifs et on en avait 3 à 5% entre janvier et mars.
Ouais, donc ça veut dire que le virus circulait en France dès novembre, donc bien avant que l'épidémie se déclare en Chine.
Oui, c'est ce qu'on peut en conclure, même si, vous l'avez entendu, le professeur Carra reste assez prudent dans sa formulation.
Pour vous donner mon sentiment personnel, je pense que sur les 13 personnes positives, il y a presque sûrement au moins la moitié qui était vraiment contaminée. Après, on n'est jamais à l'abri complètement, totalement, d'erreur de laboratoire, même si le test qu'on a utilisé est le plus sensible possible. C'est là où on a fait un petit calcul de probabilité. On peut dire que sur les 13, il y a moins de 1 chance sur 1000 qui est 5 faux positifs, et il y a moins de 4 chances sur 1 milliard que les 13, ce soient des erreurs de diagnostic. Donc ça ne fait pas beaucoup de chances de se tromper.
Ça fait peu de chances de se tromper, et du coup, ces résultats ont été une surprise pour le scientifique.
On ne s'attendait pas du tout à retrouver 13 cas confirmés. On pensait que tout venait de Wuhan, dont les premiers cas ont été identifiés le 8 décembre 2019. Donc voilà, là malgré tout, on se retrouve, nous, dans notre étude, avec des personnes qui ont des anticorps avant cette date-là. Et donc, pour avoir des anticorps, il faut attendre 15 jours après une infection. Donc elles ont été contaminées au moins 15 jours avant la date où on trouve des anticorps, c'est-à-dire potentiellement au mois d'octobre pour certaines d'entre elles, qui étaient positives au mois de novembre.
Ouais, ce qui est très intéressant, Laetitia, c'est que certaines de ces personnes, eh bien, vous les avez retrouvées et elles ont accepté de vous parler.
Oui, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir échanger avec elles, mais à une condition, de protéger strictement leur anonymat, comme c'est d'ailleurs le cas dans la cohorte dont elles font partie. Alors, on ne m'a pas donné leurs coordonnées, ce sont elles qui ont reçu les miennes, et 10 sur 13 m'ont contacté, ce qui est beaucoup. Certaines ont accepté que je les enregistre sans donner leur nom et d'autres ont préféré me parler hors micro.
Et on va donc entendre certaines de ces personnes, ces patients zéro avant l'heure, hein, en quelque sorte. Alors on commence par qui ?
Par un jeune trentenaire qui habite à Paris. Il fait partie de la cohorte depuis 6 ans. Il n'a pas de soucis de santé particuliers. Il est en pleine forme et il ne se doutait pas quand il a fait un prélèvement de sang en novembre 2019 qu'on lui annoncerait 9 mois plus tard qu'il avait eu la Covid.
Je me souviens très bien, en montant les escaliers avec mon colocataire, j'en croyais pas mes yeux en fait. Prélèvement de novembre 2019 qui est formellement positif. Je savais juste que j'avais été un week-end à Londres début novembre, que le même week-end mon colocataire avait été à Montréal au Canada pendant 4-5 jours. Et en fait, au retour de Montréal, une semaine après environ, il a commencé par avoir de très très fortes quintes de toux. Et en fait, ce qui était très frappant à ce moment-là, c'est que moi, j'ai eu la même chose que lui. Ça devait être mi-novembre ou le 20 novembre. Donc c'est une semaine, 10 jours avant le prélèvement de la cohorte Constance. C'était une toux très très sèche. Et très longue, en fait. C'est des quintes de toux qui duraient 20-30 secondes, qui étaient répétées dans la journée. J'avais l'impression de cracher mes poumons tellement c'était violent. Et en fait, c'était la première fois que je toussais comme ça. C'était marquant, c'était troublant. À tel point que je me suis dit, j'espère que j'ai rien de grave. Si ça continue, va bien falloir que j'aille voir un médecin. Puis au bout d'une semaine, 5-6 jours, c'est passé.
C'est passé, donc il ne s'est plus posé de questions. Mais si c'est son colocataire qui lui a transmis le virus, Laetitia, ça veut dire que le virus était aussi présent au Canada à cette époque ?
Alors c'est une hypothèse, hein, mais rien ne le prouve. Le colocataire peut très bien avoir pris l'avion à côté de quelqu'un qui était infecté et qui n'était pas canadien.
Alors, en tout cas, il a vraisemblablement été contaminé après avoir côtoyé, hein, ça c'est ce qu'on entend, quelqu'un qui revenait, lui, de l'étranger. Et c'est aussi le cas de la deuxième personne que vous avez rencontrée.
Oui, c'est un homme de 40 ans qui se demande, lui, s'il n'a pas été infecté en Chine. Parce qu'il a fait un voyage de près de 2 mois là-bas avec sa femme de mi-octobre au 9 décembre.
On est arrivé à Pékin et puis on est descendu dans le sud, plutôt côté ouest, côté Tibet. Après, on est remonté un petit peu dans le centre de la Chine, mais à aucun moment on est passé par Wuhan. Au plus près, on était à 400 km de Wuhan. Et puis après, on est redescendu du côté de Canton, Macao et puis Hong Kong. On a pris tout le temps les transports en commun, le métro, le train, le bus. Donc forcément, on était près d'autres personnes. Et puis, on logeait à l'hôtel où il n'y avait pas d'hôtel. On dormait dans des sortes de maisons d'hôtes. Donc effectivement, on a été parfois proche d'autres personnes. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de signes avant-coureurs d'une épidémie. Personne n'en parlait. Il n'y avait pas de mesures de protection particulières. Personne ne portait de masque. Rien de tout ça.
Ouais, donc il s'est exposé sans le savoir. Mais il a présenté des symptômes après coup ?
Non, ça, il ne se souvient pas en avoir eu, ni lui, ni sa femme d'ailleurs.
On n'a pas eu de fièvre, de toux, ni de perte d'odorat ou de goût. Après, bon, pendant le voyage, c'est vrai qu'on peut être parfois fatigué, mais on ne sait pas trop si ça vient du voyage ou si c'était des symptômes du Covid. Tout du moins, on n'a jamais eu besoin de modifier notre planning pour les questions de santé.
Ouais, donc il ne s'est jamais rendu compte qu'il avait été contaminé. Mais on est sûr qu'il a bien contracté le virus en Chine ?
Alors ça, ce n'est pas possible de savoir à quelle date il a été contaminé. Mais comme il est revenu de Chine le 9 décembre et qu'il a fait son prélèvement de sang 8 jours plus tard, il y a peu de chances pour qu'il se soit infecté en France. C'est en tout cas ce que pense le professeur Cara de l'INSERM.
On ne peut pas garantir que ce patient ne se soit pas infecté après son arrivée sur le territoire français vers le 10 décembre, mais ça voudrait dire que sa montée d'anticorps aurait été beaucoup plus rapide que celle des autres personnes qui s'infectent. Et ça, c'est peu probable. Par contre, il est beaucoup plus vraisemblable qu'il ait été infecté avant, à l'occasion de son séjour en Asie. Et il a pu être infecté au mois de novembre, il a pu être infecté au mois d'octobre. Il était en Asie au mois d'octobre.
Ouais, donc ça permet de penser que le virus circulait déjà à cette époque en Chine. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, surtout Laetitia, c'est que ce virus se trouvait apparemment ailleurs qu'à Wuhan, puisque votre interlocuteur, lui, n'y est pas allé.
Effectivement, il nous l'a dit, il est allé du nord au sud et au plus près, il était à 400 km environ de Wuhan. Maintenant, il est possible aussi qu'il ait été infecté par une personne qui, elle, venait de là-bas.
Ouais, donc on restera prudent. En tout cas, on peut penser que le virus circulait en Chine bien plus tôt qu'on l'a dit ou qu'on l'a cru.
Oui, d'ailleurs, officiellement, la Chine a identifié un cas remontant au 17 novembre. Mais il est effectivement possible que le virus ait circulé avant. C'est en tout cas une hypothèse que formule Étienne de Crolly, qui est directeur de recherche dans un laboratoire du CNRS à Marseille.
S'il y avait des cas circulants en novembre-décembre en Europe pour avoir un pic d'épidémie fin février, début mars, on peut finalement faire la supposition suivante, c'est que le pic épidémique en Chine étant plutôt en janvier, probablement que la circulation en Chine a dû commencer beaucoup plus précocement que ce que nous l'ont dit les premières études chinoises.
Mais alors, si le virus était présent plus tôt, et pas seulement à Wuhan, à l'automne 2019 en Chine, comment expliquer que l'épidémie, elle, ait démarré de Wuhan ?
Alors ça, Fabrice Cara a une idée là-dessus. Lui suggère que le virus circulait peut-être dans d'autres endroits en Chine, mais que c'est bien à Wuhan qu'il aurait muté pour devenir plus contagieux et faire ainsi de la ville l'épicentre de la pandémie.
Je ne pense pas que tout soit né à Wuhan. Ce qui est né à Wuhan, c'est le virus qu'on connaît et qui est arrivé en France et qui a donné cette pandémie. Ça ne veut pas dire que ce virus n'était pas là avant, qu'il n'était pas en Chine avant, qu'il ne circulait pas. C'était peut-être pas exactement le même virus. Encore une fois, peut-être c'était un variant précurseur, d'une certaine manière, celui qui était là avant. Mais très certainement, malgré tout, il circulait.
Alors, il circulait et cette hypothèse du coup affaiblit ou questionne en tout cas celle d'une fuite du coronavirus du laboratoire P4 de Wuhan, puisque apparemment ce virus se trouvait aussi ailleurs dans le pays, et ce bien avant le déclenchement de la pandémie.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on va continuer d'écouter les patients zéro identifiés dès novembre 2019 en France. Laetitia Chérel, vous avez aussi recueilli le témoignage d'une personne qui, elle, n'a pas voyagé.
Oui, c'est une jeune femme de 32 ans qui habite en Bretagne. Elle aussi a été testée positive après coup sur un prélèvement qu'elle avait fait le 18 novembre 2019. Et elle aussi a été très surprise de l'apprendre. Mais par la suite, elle s'est souvenue de signes assez marquants qu'elle avait eus dès le mois d'octobre.
J'avais des symptômes comme des symptômes de sinusite, hein, mais avec une fatigue qui était assez exceptionnelle. C'était au moindre effort, en montant les escaliers, où c'était vraiment une fatigue sur plusieurs jours. Et sinon, d'autres choses qui m'ont marqué, c'était justement mon conjoint qui toussait beaucoup, d'une manière en fait assez exceptionnelle et intense. Ça l'empêchait de dormir.
Et puis un autre épisode l'a intriguée, Laetitia.
Oui, parce qu'il se trouve qu'un peu plus tard, elle passe un test pour mesurer son souffle dans le cadre des bilans qu'elle fait régulièrement pour la cohorte Constance. Et là, elle a beaucoup de difficultés à respirer.
J'étais vraiment essoufflée, fatiguée, et j'arrivais pas du tout à réussir ce test. C'était étonnant, j'y arrivais pas du tout. Donc je me souviens que l'infirmière qui effectuait le test me dit... « Ah, c'est bizarre, est-ce que vous êtes fatiguée? Est-ce que vous êtes... » Et à ce moment-là, j'ai quelque chose, elle m'a regardé, « Vous êtes jeune, c'est bizarre. »
Oui, ça paraît bizarre, mais on ne se pose pas plus de questions pour autant.
Non, parce qu'à cette époque, personne n'a jamais entendu parler de la Covid. Mais aujourd'hui, cette femme pense qu'elle a pu être infectée à l'hôpital, car elle y est allée plusieurs fois par semaine pendant tout le mois d'octobre pour soigner une mauvaise fracture de l'avant-bras.
Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là, Laetitia. D'autres personnes repérées dans cette étude de l'INSERM ont également présenté des symptômes.
Oui, Fabrice Cara de l'INSERM raconte en avoir identifié une dont les signes sont assez troublant. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années.
Elle a voyagé en Espagne début novembre. Elle a eu une perte de goût et de l'odorat et une toux début novembre ou au mois d'octobre. On dit justement que ces signes sont caractéristiques de l'infection. Ça n'est pas tout à fait exact, mais malgré tout, perte de goût et d'odorat, c'est bien associé à l'infection par coronavirus. Et puis elle a des anticorps élevés. Donc voilà, ça nous laisse penser aussi que potentiellement, cette personne, dès le mois de novembre, était positive en anticorps et donc elle a été contaminée avant.
Oui, avant, donc a priori dès octobre 2019. Mais d'autres personnes dans le même cas qu'elle, en revanche, n'ont présenté aucun symptôme.
Effectivement, c'est le cas de Pascal, la quarantaine que nous avons rencontrée à Villeurbanne. Elle est testée positive sur des prélèvements de sang qui datent de novembre 2019, mais elle n'a eu aucun signe de la Covid. Rien. D'où sa surprise quand elle l'a appris.
J'ai reçu un courrier au mois de septembre 2020 m'annonçant que j'étais positive. Après coup, sans le savoir. Donc, comme ça s'est fait plusieurs mois après, j'étais dans la recherche mentale à me dire « Mais est-ce que j'ai pas eu un jour un nez qui coule, une toux, des maux de tête ?» Et non, vraiment, aucun symptôme. Aucun voyage à l'étranger. J'ai interrogé mon entourage, j'ai interrogé les gens avec qui j'ai pu passer une soirée anniversaire. En leur demandant, mais est-ce que tu as été positive ? Absolument pas.
Oui, donc sans ces analyses de sang faites a posteriori, elle n'aurait jamais su qu'elle avait été contaminée.
Oui, et elle n'est pas la seule. J'ai parlé à d'autres personnes qui ont été positives et qui n'ont pas eu de symptômes et qui n'avaient pas non plus voyagé à l'étranger. Comme cette femme médecin à Lyon qui pense avoir été contaminée par des patients souffrant de sinusite et de bronchite qui se prolongeaient anormalement. Ou encore cet homme qui vit à Angoulême. Il n'a pas voyagé, il dit juste que dans son travail, il a déballé des produits qui venaient de Chine.
Ouais, sans qu'on puisse pour le coup établir un lien certain entre ces produits et sa contamination. Alors posons maintenant la question qui s'impose compte tenu de tout ce qu'on vient d'entendre, Laetitia. S'il y avait des traces de virus en France bien avant que la pandémie se déclenche en Chine, est-ce que pour autant ça remet en cause l'hypothèse selon laquelle c'est bien de Chine, ou en Chine en tout cas, que le virus est né ?
Alors ça, c'est effectivement la thèse que défend la Chine aujourd'hui. Le pouvoir soutient que le virus aurait pu être importé d'un autre pays. Mais il existe tout de même un faisceau d'indices tendant à montrer que c'est bien là-bas qu'il est apparu, même s'il n'est pas forcément né à Wuhan, on l'a vu. C'est en tout cas ce que pense Jean-Claude Desenclos, épidémiologiste et ancien directeur scientifique à Santé publique France.
L'hypothèse la plus probable, c'est que le berceau de la naissance du SARS-CoV-2 soit la Chine. L'ancêtre du SARS-CoV-2 le plus proche a été déjà identifié en 2013 en Chine. Donc tout ça fait un faisceau d'arguments qui rend cette hypothèse la plus vraisemblable de manière importante.
Ouais, donc a priori, le virus serait bien venu de Chine.
Vraisemblablement, oui. Mais surtout, bien plus tôt qu'on l'a cru, comme l'explique le professeur Yves Cohen, le responsable du service de réanimation de l'hôpital Jean Verdier à Bondy.
Il y a plusieurs études qui montrent une influence très importante et très étonnante des hôpitaux chinois, en particulier dans la province de Wuhan, en juillet-août. Et donc probablement en juillet-août, il y a eu le début de cette épidémie-là. Et comme vous le savez, on habite Roissy et donc tous les jours, il y a un vol quotidien vers Wuhan ici. Donc ça ne m'étonne absolument pas vu la contagiosité de ce virus. Qu'il y a eu d'autres cas similaires en France.
Et je précise que jusqu'à la mi-mars 2020, 90 avions en provenance de Chine atterrissaient chaque semaine à l'aéroport de Roissy. Ce sont donc 25 000 personnes potentiellement contaminées qui ont pu, chaque semaine, en contaminer d'autres sans le savoir.
Mais s'il est arrivé si tôt alors ce virus, pourquoi l'épidémie, elle, n'a pas flambé plus tôt chez nous ?
Eh bien, selon Florence Desbarres, qui fait de la modélisation au CNRS à Paris, les cas n'étaient peut-être pas suffisamment nombreux pour faire démarrer une épidémie. Un peu comme un feu qui ne démarre pas parce que la flamme de l'allumette est trop petite.
Il est possible, si ce sont des vrais cas, qu'il n'ait pas initié de chaîne de transmission en France. Qu'il y ait eu quelques cas, mais que ça se soit arrêté. Vous aviez au début, on disait qu'une personne en affecte en moyenne 3. Mais c'est une moyenne. En fait, certaines personnes n'infectent personne d'autre, alors que d'autres vont en infecter beaucoup. Donc la probabilité qu'un premier cas donne naissance à une épidémie, elle est relativement faible. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de premiers cas pour donner lieu à une épidémie.
Oui, donc on n'aurait pas eu assez de cas pour déclencher une épidémie, mais à cela s'ajoute peut-être une autre raison.
Oui, le professeur Cara pense, lui, que le virus détecté précocement en France aurait pu être moins virulent que celui qui a ensuite muté à Wuhan.
Une hypothèse pour expliquer ce résultat, ça pourrait être de dire, finalement, le variant qui les a infectés au mois de novembre ou au mois de décembre, c'était un variant qui se transmettait peut-être un peu moins bien que celui qui est arrivé depuis le 8 décembre à Wuhan. Et puis surtout, c'était probablement un variant qui donnait un peu moins de forme grave que celui qui est arrivé au mois. Mais c'était le même virus. C'était le même virus. C'est pas un coronavirus saisonnier comme ceux qu'on a l'habitude de détecter dans les infections, dans les épidémies hivernales. Hein. C'est pas ce virus-là. C'est vraiment le SARS-CoV-2. Mais peut-être s'agissait-il d'un variant précurseur du variant qui a donné lieu à cette pandémie mondiale.
Ouais, donc pour résumer, on a bien établi, ou en tout cas il y a de très 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 fortes probabilités pour que le virus ait été là bien plus tôt qu'on ne l'avait pensé. Maintenant on ne sait pas vraiment, hein, on n'a que des hypothèses sur le pourquoi du fait qu'il soit resté aussi discret. Alors maintenant, et en conclusion Laetitia, ces travaux de l'INSERM sur la datation du virus chez nous, ils vont continuer ?
Les chercheurs et les responsables de la cohorte Constance le souhaitent. Ils voudraient pouvoir remonter encore plus loin dans le temps pour vérifier si le virus ne circulait pas avant le mois de novembre en France. Mais encore faut-il qu'ils trouvent de nouveaux financements.
Donc un peu de patience, on verra si on retrouve des traces du virus en juillet ou en août. Merci en tout cas Laetitia Chérel. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez y laisser laisser vos commentaires au passage et vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Dans une deuxième partie, nous allons voir que la presse japonaise cible ces jours-ci une des filles de Carlos Ghosn en laissant entendre qu'elle aurait pu l'aider dans sa fuite. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. Un voyage quasi aquatique dans un univers éthéré, c'était Lose Your Head, extrait du prochain album des Anglais de London Grammar, dont la sortie est programmée pour bientôt, pour le 9 avril prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Régis Arnaud en ligne depuis le Japon. Bonjour.
Bonjour.
Lundi dernier, Michael Taylor et son fils Peter, on dit Michael d'ailleurs, je pense en anglais, ont été inculpés à Tokyo pour avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le pays et à se réfugier au Liban. Il se trouve que vous habitez au Japon, que vous avez coécrit avec Yann Rousseau un livre consacré à Carlos Ghosn intitulé Le Fugitif. Alors expliquez-nous peut-être pour commencer, que risquent ces deux anciens membres des forces spéciales américaines ?
Alors, ils risquent plusieurs années de prison, probablement 3 ans chacun, pour avoir aidé à la fuite de Carlos Ghosn, avec un troisième larron qui, lui, est probablement au Liban. Ils risquent d'abord de passer assez longtemps en détention avant le procès, le temps que les procureurs bâtissent leur cas. Et ensuite, ils risquent évidemment le procès et enfin la condamnation et la prison en tant que telle. Donc, ils se préparent à des années en détention au Japon.
Oui, j'imagine qu'ils n'auront pas droit, eux, à une résidence surveillée comme l'avait eu Carlos Ghosn.
En général, déjà, le juge rechigne à remettre en liberté les gens qui vont être jugés. Alors, dans leur cas, il faudrait déjà qu'ils plaident coupables, ce qui n'est pas encore le cas. Il faudrait en plus qu'ils ne soient pas considérés comme un risque de fuite. Et s'il y a des gens qui sont considérés comme un risque de fuite, c'est bien les Taylor. Et troisièmement, ils n'auront évidemment personne pour les aider à s'évader, comme ils ont aidé à s'évader Carlos Ghosn.
Est-ce que leurs conditions de détention seront similaires à celles de Carlos Ghosn, c'est-à-dire 2 douches par semaine dans un espace de 6 mètres carrés avec des vitres ?
Alors en fait, Ils sont probablement dans le même centre de détention que Carlos Ghosn, c'est-à-dire à Kosugé, probablement dans une cellule, enfin séparés l'un et l'autre, mais dans des cellules similaires, et ils seront soumis exactement au même régime. Les procureurs en privé expliquent qu'ils savent bien que cette affaire les place sous les feux de la rampe, mais ils soumettent les détenus à un régime, au régime aussi spartiate que ceux des Japonais et que celui qu'a subi Carlos Ghosn.
Alors eux avaient argué lorsqu'ils avaient été arrêtés sur mandat d'arrêt international aux États-Unis du fait qu'ils risquaient au Japon des conditions d'incarcération dignes de la torture.
Oui, alors enfin, ça dépend de ce qu'on entend par torture, mais si on entend par torture les souffrances physiques, les violences, etc., non, ils risquent très peu, enfin ils risquent peu de subir ça. Encore une fois, les procureurs savent très bien qu'ils sont sous les feux de la rampe internationale et ils ne vont pas leur donner des verges pour se faire fouetter. En revanche, si la torture, c'est être dans une pièce sans montre et sans miroir pendant des jours et des jours, ne pas savoir quelle est l'heure, ne pas savoir quel temps il fait dehors, avoir simplement quelques minutes dehors pour se dégourdir les jambes, ne pas avoir accès à sa famille, ne pas recevoir de visite, avoir des contacts extraordinairement limité avec l'extérieur et être dans des conditions de détention pénibles, mais psychologiquement pénibles, oui, on peut dire que c'est de la torture.
Alors, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles ils sont supposés avoir organisé la fuite de Carlos Ghosn ?
Oui, c'est assez connu. Donc, ils ont pendant des mois préparé l'évasion en se rendant plusieurs fois à Tokyo, en vérifiant les différents aéroports. Et donc, ils ont tâté le terrain. Ils ont communiqué avec lui, non pas avec le seul téléphone qu'il avait, mais par d'autres moyens, sans doute avec des tiers. Et ensuite, donc, le fameux jour, ils ont embarqué Carlos Ghosn. Ils ont filé d'abord vers la Turquie et ensuite vers le Liban.
Voilà ce que vous avez raconté dans votre livre. Puisqu'il aurait été trop risqué d'aller directement au Liban, on aurait pu identifier la destination de l'avion et éventuellement se poser des questions. Alors, vous évoquez la possibilité donc d'un tiers ou deux tiers qui auraient pu faire la liaison entre Michael Taylor, son fils, et Carlos Ghosn. Se pose aussi donc la question d'éventuelle complicité. Et aujourd'hui, la presse a une nouvelle cible, c'est une des filles de Carlos Ghosn.
Il y a plusieurs personnes qui tournent autour de l'évasion. Il y a son fils Anthony qui est aux États-Unis, et puis il y a Maya donc qui était là-bas ce jour-là. Pour l'instant, ils sont hors d'atteinte de la justice japonaise. La justice japonaise a émis un mandat d'arrêt pour Carlos et Carol Ghosn, mais elle pourrait s'attaquer aussi à ses enfants.
Elle pourrait, c'est-à-dire ?
Alors, on ne sait pas évidemment pour l'instant quel est l'état d'esprit des procureurs, mais il pourrait lancer un mandat d'arrêt contre ses enfants. Ça paraît assez compliqué pour Anthony qui est assez loin et qui est lié à un paiement au Taylor, mais qui a eu lieu après l'évasion. Or, quand le paiement a lieu après l'évasion, il est plus difficile de dire que ce paiement a déclenché l'évasion. Quant à Maya, elle était au Japon donc le même jour. Ils peuvent parfaitement aussi lancer un mandat d'arrêt contre elle. Ça serait évidemment très préoccupant pour eux, puisque ce mandat d'arrêt pourrait les mettre sous la menace d'une arrestation aux États-Unis comme les Taylor. Et ça restreindrait énormément leur liberté de mouvement.
Oui, parce que Maya Ghosn travaille actuellement dans une fondation qui a été créée par Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook.
Oui, son habituel lieu de résidence, c'est les États-Unis. Donc, si les procureurs décidaient qu'ils avaient une chance de la capturer, enfin, soit de faire pression sur son père, ils pourraient se résoudre à cette manœuvre.
Alors, ils pourraient, là, on est encore dans le conditionnel. Pour l'instant, c'est la presse surtout qui spécule autour de ça, non ?
Ben, c'est-à-dire que la presse a réévoqué le rôle de Maya il y a quelques jours, de façon un peu inattendue. Et la presse japonaise, elle se nourrit un peu de ce que lui donnent les procureurs. Et les procureurs ont leur propre rythme, leur propre vitesse. Et on peut imaginer que les procureurs travaillent sur la complicité de Maya Ghosn dans l'opération.
À suivre donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des revenus et de la manière dont vit Carlos Ghosn au Liban ?
Oui, alors il donne des cours à une université à Beyrouth, des cours de management, mais sinon ses revenus sont pour l'essentiel tout ce qu'il a accumulé sur les 40 dernières années dans sa carrière. L'évasion lui a coûté quand même très cher, il y a des frais d'avocat, des frais de communication, il y a tout un train de vie qu'il s'agit de soutenir, donc ses revenus sont sans doute pour l'instant très faibles.
Oui. L'enquête française n'a pas vraiment avancé ces derniers temps, puisque des juges devaient se rendre au Liban en janvier, et puis à cause du Covid, ils n'ont pas pu aller l'entendre.
Oui, pour l'instant, les juges, effectivement, ne sont pas allés au Liban l'interroger. Lui, il dit qu'il est tout à fait prêt à répondre à leurs questions. Il veut juste pas se rendre en France parce qu'il a peur, encore une fois, d'être attrapé et envoyé au Japon. La justice française elle-même prend beaucoup de temps et mais à des questions à lui poser, questions auxquelles il n'a pour l'instant pas répondu, en tout cas dans ses articles, dans ses livres et dans ses multiples interviews.
Alors pour conclure, Régis Arnaud, on évoquait ses nouvelles sources de revenus. On a évoqué également sa participation à une mini-série télé qui doit être tournée cette année.
Oui, il y a plusieurs projets en fait de séries télé, de documentaires autour de son incroyable histoire. Il y en a une qu'il pilote lui-même, qui est fait avec, je crois, un groupe saoudien. Netflix a aussi un projet, Canal+, je crois, un projet. Enfin, il y a beaucoup de projets. Le problème, c'est que soit il participe et il contrôle le contenu, soit il ne participe pas et ne contrôle pas le contenu. Donc, il faudra distinguer le bon grain de livret dans ces projets audiovisuels qui vont apparaître dans les mois à venir.
Et dont on reparlera donc, et probablement ici même également. Merci Régis Arnaud. Donc je rappelle que vous étiez en ligne depuis Tokyo, et je précise que votre livre, Le Fugitif, coécrit avec Yann Rousseau, est édité chez Stock. C'est la fin de Secret d'Info, une émission qui était préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert, et à la technique, il y avait Grégory Wallon et Fabrice Desmaz. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.